Je vais vous parler de Saint Martin aujourd'hui. Alors, qui est ce personnage fantastique? Je ne vais pas vous raconter sa vie parce que sinon on y sera encore la semaine prochaine. Et c'est très long, une très longue vie, très bien remplie surtout. Je vais vous parler de ce qui pourrait, dans cette vie, nous servir de borne, nous servir de poteau indicateur des grands messages que cette vie nous adresse. Saint Martin est né tout de suite après l'édit de Milan, peut-être un an ou deux après que l'empereur Constantin ait ouvert les portes de l'Empire au christianisme en signant la fin des persécutions. Donc il est de cette première génération de chrétiens après les persécutions. Et toute sa vie est tournée vers, j'allais dire, le chantier, le travail que l'Église va enfin pouvoir accomplir dans la paix. Là, il se trompait beaucoup parce que la paix, on ne l'a pas eue tout de suite quand même. Donc, trois épisodes de cette vie qui me semblent importantes. D'abord, le plus célèbre des épisodes, le partage du fameux manteau. Ensuite, le refus de la violence. Et pour finir, tout à fait à la fin de sa vie, l'acceptation du labeur, du travail. Le partage du manteau, bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire du manteau, tout le monde la connaît. Ce qui est important dans cet épisode, c'est que tout de suite après cet acte extraordinaire, qui apparu sans doute ordinaire à celui qui l'a fait, ça lui est venu normalement, ce partage du manteau. Il a vu là un homme qui était transi de froid, sans doute il n'était pas le premier qu'il rencontrait ce matin-là. Et pour lui, c'était naturel. Il a pris son manteau, il en a coupé la doublure, parce que c'était la doublure qu'il a donnée en fait, hein, la partie chaude du manteau. Ce qui est important, c'est que tout de suite après, le Christ lui est apparu en songe, couvert de son manteau. Et lui dit: Martin, encore catéchumène, m'a revêtu de ce manteau. Martin n'avait pas encore entendu les paroles du Saint baptême. Il n'avait pas encore entendu le trop-père que nous chantons à la fin du baptême. Vous tous qui avez revêtu le Christ, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'avait pas entendu ces paroles, et c'est lui qui a revêtu le Christ. C'est lui qui a vêtu le Christ. C'est l'inverse. Il a précédé. Avant d'être lui-même revêtu par le Christ, il a pris la peine de couvrir le Christ dans la personne de ce pauvre. Il sait déjà, avant son baptême, que la foi ne consiste pas seulement à adhérer à des paroles, à un credo, mais que la foi, c'est d'abord un acte, c'est d'abord des œuvres. La foi sans les œuvres est une lettre morte. Il sait que la foi consiste avant toute chose à se dépouiller de soi-même, enlever son manteau, sa doublure, dépouiller le vieil homme. Premier message. Le second message, le refus de la violence, c'est une affaire qui est moins connue de sa vie, une affaire importante. Voilà que, tout de suite après cet épisode de la porte d'Amiens, Martin reçoit le baptême. Il a compris, dans cette vision, n'est-ce pas, qu'il ne fallait plus attendre. Il était catéchumène depuis plusieurs années. On pense qu'il s'était fait inscrire parmi les catéchumènes à Milan à l'âge de 15 ou 16 ans. Et là, il en avait 10 de plus. Ou même peut-être plus d'avant. On ne sait pas la date exacte. Donc il se fait baptiser et immédiatement, c'est la guerre. Aïe, aïe, aïe. Alors il part avec sa légion, la légion dont il était officier. Il était cavalier, on le sait, il avait un cheval, il était cavalier. Parce que les fils des anciens officiers, son père lui-même était officier, une famille de militaires. D'abord il s'appelle Martin, Martinus, ça veut dire le petit Mars. Il part donc avec sa légion et il se trouve là, dans les plaines d'Allemagne, à Worms, en face des Francs. Les Francs sont déjà là, par hasard. Les Francs, et la bataille va avoir lieu. Et il vient d'être baptisé, tout juste d'être baptisé. Et là, il se passe quelque chose. Il dit non, le chrétien ne se bat pas avec des armes, le chrétien se bat avec l'amour. Le chrétien se bat avec les paroles de l'Évangile. Et voilà qu'il refuse, et refuse de se battre. Objection de conscience. C'est grave chez les Romains. C'était puni, d'ailleurs, pas seulement chez les Romains. Mais refuser le combat, refuser, fuir devant l'ennemi, c'est une trahison. Alors, on l'amène devant l'empereur Constant. Il lui raconte, il lui dit, moi je suis chrétien, je refuse de me battre, c'est contre l'Évangile. Mais par contre, je veux bien aller face à l'ennemi parce que je ne suis pas un lâche. Je vais à l'ennemi sans armes, on va bien voir ce qui va se passer. Alors là, évidemment, grand éclat de rire autour de lui, et on dit, bon, on va te prendre au mot, demain matin tu vas aller sans armes face à l'armée franque de l'autre côté de la rivière. Et on l'enferme dans la nuit pour pas qu'il s'en aille, hein, parce qu'on veut absolument le mettre à l'épreuve. Et le lendemain, on apprend que les Francs ont demandé l'armistice. Curieusement, dans la nuit, ils ont envoyé des émissaires en disant on va peut-être pouvoir s'entendre. Donc voilà qu'il a réussi à désarmer les adversaires sans combat. Mais il a pris des risques. Il a pris un grand risque. Cette position catégorique contre la violence, il va l'avoir encore une deuxième fois durant sa vie, mais beaucoup plus tard, comme évêque. Il y a eu, à cette époque, une grosse affaire en Espagne. Il y avait des hérétiques qui étaient dirigés par un évêque un peu bizarre, qui s'appelait Priscillien, qui étaient des gens extrêmement dangereux, qui prêchaient des choses très catégoriques, des jeunes extrêmement violents. C'était des hérétiques dont il fallait absolument se débarrasser, mais il fallait s'en débarrasser une fois de plus par la persuasion. On réunit donc un concile à Bordeaux qui condamne Priscillien, lui demandant de revenir à des idées plus raisonnables, plus évangéliques, mais ils refusent. Alors les évêques espagnols le traînent jusqu'à Trèves, là-haut, là, devant l'empereur, pour demander à l'empereur de condamner cette secte. Et là, se dresse devant tout le monde notre évêque de Tours qui dit non. Il dit non, je ne suis pas le défenseur de Priscillien, je pense qu'il a tort, mais l'État ne doit pas intervenir dans les affaires spirituelles. Le bras séculier ne doit pas intervenir dans les affaires de l'Église. Et il refuse, au point que l'empereur lui donne raison, Mais malheureusement, dès qu'il a eu le dos tourné et qu'il est rentré à Tours avec sur son âne, il n'avait pas fait 50 km, que l'empereur change d'avis et fait exécuter Priscillien et les principaux de la secte. Alors là, notre évêque, ayant appris ça en chemin, peut-être par là, du côté de l'ordre, il était peut-être arrivé jusqu'ici, on ne sait pas, ça se passe par là. Il retourne à Trèves, sans hésiter, et là, il fait un scandale. Et il leur dit, maintenant c'est fini, je ne viendrai plus à aucun concile d'évêques. Et de toute sa vie, il n'est plus jamais venu à aucun concile d'évêques. C'est vraiment fâché. Donc ce deuxième message, c'est bien clair. Le chrétien, le soldat du Christ, aime son ennemi. C'est par l'amour qu'il est vainqueur, c'est par la parole de l'Évangile qu'il désarme ses ennemis. Le troisième message est un peu plus difficile. Le troisième message, Martin nous le délivre au moment de sa mort, quelques instants avant de mourir. Et ce message est si beau et si extraordinaire qu'il faut que je vous le dise textuellement. Je l'ai écrit parce que je ne veux pas me tromper de mots. Il nous a été transmis par Sulpice Sévère. Sulpice Sévère, c'est le grand biographe de saint Martin, qui vraisemblablement a été témoin. Il l'a écrit, il l'a transmis, car il l'a entendu lui-même. Voilà Martin dans le monastère de Cambes, qui était la ville où il se trouvait, à côté de Tours, au moment de sa mort. Et il dit à Dieu cette prière. « Seigneur, si je suis encore utile à ton peuple, je ne refuse pas le labeur. » Le fameux non recuso laborem, je ne refuse pas le travail. « Ils sont rudes les combats de ta milice sur la terre et j'ai déjà combattu depuis longtemps. Cependant, si tu m'ordonnes de rester encore dans les rangs et de soutenir ce labeur, je m'y soumettrai. » Je n'invoquerai ni l'âge, ni la lassitude. Je monterai encore la garde dans ton camp. Voilà, nous sommes avertis. Le travail est rude et le combat est incessant. Il n'y a pas de répit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, l'Église est en combat contre les forces des ténèbres. Donc, ne nous arrêtons pas en chemin. Nous avons bien commencé. J'en entends quelques-uns qui disent « Oui, encore des réunions, encore des changements, encore du travail. » Hélas. Mais la vie en Christ est un chantier perpétuel. Si le chemin est rude, répétons-nous ceci, que nous sommes les disciples de celui qui a dit « Ne crains pas, petit troupeau, j'ai vaincu le monde. » À lui, la gloire au siècle des siècles.
Amen.